Ne
dites pas trop de bêtises.
Ouais. Ah, on va essayer.
On pourra pas vous faire.
On va essayer. Je suis enregistré.
C'est-à-dire que. Faut pas qu'on dise des bêtises. Merci.
Parmi les chrétiens, il y a différentes. Il y a différents sous-groupes. Et nous, on est les catholiques. Et si on cherche à savoir ce que c'est qu'un catholique parmi les chrétiens, un catholique, c'est quelqu'un qui attache de l'importance à l'histoire de l'Église, et particulièrement à l'histoire des premiers siècles de l'Église. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à ce moment-là, ça continue à nous servir de modèle. Et je dis ça parce que, pour comprendre la confirmation, il faut se souvenir des premiers siècles de l'Église. Au premier siècle de l'Église, on baptisait pas des bébés, mais on baptisait des adultes. Et c'est le baptême des adultes qui reste le modèle du baptême. Donc je vais vous raconter le baptême des adultes dans les premiers siècles, parce que c'est à partir de là que vous comprendrez le sens de la confirmation. Dans les premiers siècles, le baptême des adultes avait deux caractéristiques. Il était célébré par une seule personne, et il était célébré dans une seule célébration par an. Et cette célébration par an, c'était la veillée de Pâques. Tous les baptêmes étaient regroupés dans la veillée de Pâques, une longue célébration, jusqu'à aujourd'hui c'est une très longue célébration. Si vous devez aller à la messe qu'une fois par an, il faut aller à cette messe-là. C'est la messe la plus importante de l'année, c'est dans la nuit de Pâques. À la cathédrale, c'est à 21h30, hein, le samedi saint, la veille de Pâques. Et c'était pour signifier que l'essentiel de la foi, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et on le comprend le jour de la résurrection du Christ. Donc le baptême avait lieu un seul jour et il était célébré par une seule personne, à savoir l'évêque. Et l'évêque, c'est un successeur des apôtres. Vous savez, la foi, elle ne repose pas sur des livres. Au début de l'Église, il n'y avait pas de livres. Enfin, s'il y avait des livres, mais c'était tout ce qui concernait avant Jésus. Et les premiers chrétiens, ils n'avaient pas de livres. Par contre, ils avaient une autorité suprême, c'était les apôtres. Quelqu'un qui connaissait un apôtre, il pouvait être fier. Après, les apôtres, ils sont morts. Alors, quelqu'un qui connaissait un apôtre, il pouvait être fier. Après, ceux qui connaissaient les apôtres, ils sont morts. Alors quelqu'un qui avait connu un apôtre pouvait être fier. Et nous, on connaît un gars qui s'appelle l'évêque. Il s'appelle comment l'évêque déjà?
Non,
il s'appelle pas Monseigneur Monnier. Il s'appelle
Éric.
Il s'appelle Monseigneur Monnier, vous avez raison, mais dans la prière, on l'appelle par son prénom. Comme les apôtres. Les apôtres, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît que leur prénom. Et dans la prière, on appelle l'évêque par son prénom. Donc l'évêque. L'évêque, c'est quelqu'un qui a connu quelqu'un, qui a connu quelqu'un, qui a connu quelqu'un, qui a connu quelqu'un, qui a connu les apôtres. Et la foi, elle repose sur le témoignage des apôtres. Et donc, l'évêque, il représente la source de la foi. Si bien qu'il y a un proverbe de l'Église ancienne, que vous pouvez retenir, le proverbe c'est « Là où est l'évêque, là est l'Église. » Là où est l'évêque, là est l'Église. Après, donc il y a eu de plus en plus de baptêmes. Et puis finalement, on a arrêté de baptiser seulement la veillée pascale. Et puis on a arrêté de baptiser seulement par l'évêque. Mais on a perdu quelque chose en faisant ces deux choses-là. On a perdu le lien entre la foi et la mort et la résurrection du Christ. On ne la voit plus quand c'est n'importe quel dimanche. Et puis on a perdu aussi le lien entre le baptisé et l'évêque. C'est pour ça que normalement, c'est l'évêque qui vous confirme. C'est parce que comme il n'était pas là à votre baptême, sauf exception, le jour de votre confirmation, il est là. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours lui, parce qu'à Versailles, il y a 2500 confirmants par an. Donc il y a des adjoints qui l'envoient. Hein, mais normalement, c'est l'évêque qui confirme. Alors celui qui voulait être baptisé dans les premiers siècles, il allait voir l'évêque. Et il disait, voilà, j'ai découvert, je sais pas quoi, la foi, je voudrais être baptisé. Et là, l'évêque, il lui disait, ben, peut-être. Alors, il appelait quelqu'un de la communauté chrétienne, quelqu'un qu'il connaissait bien, un vrai chrétien. Il lui disait, tu vois, un tel, il veut être baptisé, alors je te demande de l'accompagner. Et puis, on en reparle plus tard. Et puis, deux ans après, hein, c'est des adultes, celui qui était candidat au baptême, il revenait voir l'évêque, il lui disait, je veux toujours être baptisé. Et là, l'évêque, il se tournait vers celui qui l'avait recommandé, il lui disait, mais est-ce que ce candidat-là, est-ce qu'il est digne d'être baptisé? Est-ce qu'il a fait un vrai chemin? Est-ce qu'il s'est vraiment converti? Et celui qui accompagnait le candidat au baptême, il réfléchissait sur quatre critères. Et c'est important parce que vous, quand on vous forme dans la foi chrétienne, on vous forme sur ces quatre choses. D'abord, il disait, est-ce que c'est un vrai croyant? Ça, vous pouvez noter ces quatre points. Est-ce que c'est un vrai croyant? La deuxième question, c'est, donc est-ce que c'est un vrai croyant? Est-ce qu'il connaît l'histoire d'Israël, la création, l'Exode, le passage de la mer Rouge? Est-ce qu'il connaît les prophètes? Est-ce qu'il connaît l'exil? Est-ce qu'il connaît les psaumes? Voilà. Première question, est-ce que c'est un vrai croyant? Deuxième question, est-ce qu'il sait prier? Est-ce qu'il sait prier? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il accepte d'être seul un moment pour dire ses joies, dire ses peines, écouter la parole de Dieu, chercher à comprendre, chercher à croire? Troisième question, est-ce qu'il est rentré dans la communauté chrétienne? Est-ce qu'il connaît d'autres chrétiens? Est-ce qu'il agit avec eux pour les plus pauvres? Et quatrième question, est-ce qu'il mène une vie droite? C'est-à-dire, est-ce qu'il est respectueux des autres? Est-ce qu'il honore ses bêtes? Est-ce qu'il élève bien sa famille? Est-ce que je sais pas quoi? Et en fonction de ces quatre critères, ou ces quatre pistes-là, ben, celui qui accompagnait le catéchumène, parce que l'évêque ne connaissait pas tout le monde, il disait, ben oui, il peut être baptisé, ou bien, non, il faut qu'il attende. Et on connaît des exemples de candidats au baptême qui ont attendu 2 ans, 5 ans, 8 ans, 11 ans, 17 ans, même si, dans la plupart des cas, c'était entre 2 et 4 ans. Parce que devenir chrétien, c'est un vrai itinéraire. Cet accompagnateur que l'évêque choisissait pour le candidat au baptême, on appelle ça, et c'est le vrai sens du mot, un parrain. Le parrain, ce n'était pas simplement l'ami de l'enfant ou l'ami des parents. Le parrain, c'est celui qui, au nom de la communauté chrétienne, garantissait que l'itinéraire du candidat au baptême était vrai. Alors si vous avez été baptisé bébé, surtout, comme moi par exemple, vous n'avez pas choisi votre parrain. Il vous a été confié. Et puis vous voyez bien que le parrain, quand on baptise l'enfant petit, il n'agit pas avant le baptême, il agit après. Alors qu'avant, à l'origine, le parrain, il agissait avant le baptême. Alors je vous parle de ça aujourd'hui parce que vous allez devoir choisir pour votre confirmation un parrain. Si vous avez bien écouté ce que je vous dis, normalement, le parrain, il aurait dû être choisi, pas par vous, mais par l'Église. Et alors, en fait, votre parrain, il a un peu été choisi par l'Église. Parce que ceux qui jouent le rôle de parrain dans la préparation à la confirmation, c'est les animateurs que vous avez. C'est eux qui sont envoyés par l'Église pour garantir votre itinéraire. Donc bien sûr, vous choisirez un autre parrain, à moins que vous choisissez votre animateur, mais le vrai rôle du parrain, aujourd'hui, il est joué, et pendant le temps de la préparation, il est joué par votre animateur. Et c'est pour ça que votre animateur, il prend soin de vous. Voilà, il ne fait pas simplement la loi dans le groupe, hein. Il ne fait même pas d'abord ça. Mais il a d'abord la mission de faire de vous des vrais chrétiens sur ces quatre points. Et c'est pour ça qu'avec votre animateur ou votre animatrice, vous êtes invité à développer des relations fraternelles. Pas d'abord des relations d'autorité, mais des relations fraternelles. Cela dit, vous allez devoir choisir un parrain ou une marraine pour le jour de votre confirmation. Alors c'est encore loin, mais ça serait dommage de choisir en catastrophe. Vous voyez, au mois de janvier 2015, vite, qui je vais prendre, allô, tu voudrais bien ceci, cela, vous voudriez bien ceci, cela. Non, non. Moi, je vous invite à choisir dès maintenant et à faire du chemin avec lui ou avec elle. Et à faire du chemin en discutant, moi, je dirais au moins deux fois, mais deux fois vraiment. Et je vous propose deux discussions. Première discussion, pourquoi je t'ai choisi? Pourquoi t'as accepté? Enfin, pourquoi je t'ai choisi? Vous me parlez, vous dites blabla, tout ça, je t'ai choisi parce que blabla. Et il ou elle vous répond, j'ai accepté parce que blabla. Et bien ça, ça a l'air de petites questions de rien du tout, mais c'est des questions qui sont très chouettes, en fait. Donc moi, je vous invite à choisir votre parrain ou votre marraine, à en parler en équipe si vous n'avez pas d'idée, et à avoir une vraie conversation avec votre parrain ou votre marraine. Ça, c'est la première conversation. Et la deuxième, c'est de faire le point, peut-être réciproquement d'ailleurs, sur les quatre points de la vie chrétienne. Foi, prière, engagement dans l'Église, et vie droite. Et ça, ça fait une vraie conversation. Donc voilà. Donc après, on s'est mis à baptiser, quand on s'est mis à baptiser les enfants petits, on a perdu des choses, hein, mais vous pouvez retrouver ça. Ce rapport à Pâques, ce rapport au parrain, cette année. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la confirmation, c'est en quelque sorte la fin de votre baptême. Les adultes, quand ils sont baptisés, ils ont les trois célébrations dans la nuit de Pâques, le même jour. Baptême, confirmation, juste après, et communion. Mais vous avez fait ça sur 15 ans. Donc vous avez une célébration qui a duré 15 ans. Et c'est la logique du baptême, c'est-à-dire quand on est baptisé, c'est logique d'être confirmé, à moins de dire, et vous avez le droit de réfléchir à ça, à moins de dire, ben, moi je vois pas, ou je suis pas porté par la foi, ou... Donc voilà, vous pouvez réfléchir à ça, et ça vaut la peine pour y réfléchir, d'en parler justement à votre parrain, à votre marraine, avec un frère ou une sœur aînée, avec des animateurs, avec des prêtres, et vous avez, enfin, c'est un peu, ça vous est remis. Personne vous suivra sur cette conversation-là. Vous pouvez les avoir, vous pouvez ne pas les avoir, et ça serait dommage de passer à côté. Moi, je vous invite à faire cette démarche pour que votre confirmation soit bien. Parce qu'au bout du compte, ce qui nous donne envie de croire, c'est des croyants. Il y a une petite... il y a deux petits proverbes que j'aime bien. J'aime beaucoup les proverbes. J'ai aussi aimé beaucoup les proverbes. Parce qu'un proverbe, ça dit beaucoup de choses en peu de mots. Un proverbe, c'est le témoignage, c'est le témoin. Le témoignage, c'est le témoin. On vous demande pas simplement de dire des choses pour témoigner, on vous demande d'être vous-même témoignage. Et un autre proverbe que j'aime bien, c'est l'important, ce n'est pas le livre. Quand on parle du livre, dans la foi chrétienne, c'est celui-là. Donc l'important, ce n'est pas le livre, c'est la main qui te le donne. Moi, si on me donne le livre, j'attrape un passant dans la rue, je lui dis, tiens, lis ça, jamais il va le lire, jamais il va comprendre ce qu'il y a dedans. Si je lui dis, moi, je vis de ça, je crois, j'ai lu comme ça la parabole du jeune homme riche, ou l'histoire du jeune homme riche, et j'ai compris dans cette histoire que Dieu, en fait, s'est fait pauvre, alors que les hommes ne savent pas se faire pauvre, alors il y a une petite chance que ce livre devienne, pour lui, une parole de vie. Mais sinon, il n'y a aucune chance. Donc vous avez croisé des témoins, vous êtes témoins les uns pour les autres, ça c'est votre vie d'équipe, et vous connaissez des gens qui sont témoins pour vous, peuvent être plutôt plus âgés, enfin, de la génération de vos parents, ou de la génération, ou de votre génération à vous, juste un peu plus âgés que vous, comme vous voulez. Mais c'est quand même des témoins pour vous. C'est les témoins qui nous font croire. Le prêtre disait tout à l'heure au sujet de la messe que il donnait l'exemple de gens qui s'entraînent mutuellement à aller à la messe. Mais c'est comme ça dans la foi. On s'entraîne toujours mutuellement dans la foi. On ne devient pas chrétien comme ça parce qu'on a une expérience d'apparition ou je sais pas quoi. Non, ça marche jamais comme ça. On aimerait bien... Quelquefois, il y a des histoires qui les racontent, c'est vrai. Mais pour chacun d'entre nous, on vient à la foi par des témoins. Voilà. Ça aussi, c'est un échange que vous pourriez faire en équipe. Qui est-ce qui est témoin pour moi de la foi? Parce qu'il dit, parce qu'il fait, parce qu'il est. Donc vous avez compris que la confirmation, elle prend sens quand on connaît la pratique de l'Église, la pratique du baptême dans les premiers siècles de l'Église. Voilà. Une fois qu'on est baptisé, confirmé, qu'on a communié, on a pleinement sa place dans, et sa mission dans l'Église. Parce que le sens de l'Église, c'est la mission. La mission, c'est pas une activité de l'Église au sens où il y aurait plusieurs activités. La mission, c'est le sens même de l'Église. Question finale. Est-ce que vous avez... Non, d'abord, est-ce que vous avez des questions ? Sur le choix du parrain, sur... Oui. Alors, ça peut être n'importe qui. Il faut que ce soit quelqu'un qui est lui-même confirmé, si tu veux. Mais ça peut être n'importe qui de confirmer. Oui. J'ai pas entendu. Ça peut être une marraine, oui, bien sûr. C'est ou parrain ou marraine. L'un ou l'autre. Si vous avez des bons rapports avec votre parrain ou marraine de baptême, c'est un peu logique de les choisir aussi. C'est pas obligé, mais c'est logique. Tout à l'heure, Joseph, je crois, est venu. Je lui ai demandé de parler du jeune homme riche.
C'est Jean, pardon.
Jean est venu, je lui ai demandé de parler du jeune homme riche. Et en fait, il voulait parler de la parabole des talents. Et du coup, je propose qu'il le fasse. Et moi, j'attirerai votre attention sur un petit détail du texte qui en donne beaucoup de signification. Jean. Apparemment, les talents, il va vous raconter. C'est pas une petite histoire parmi d'autres et vous allez voir pourquoi. Hein, donc vous l'écoutez bien, surtout si vous la connaissez pas.
C'est un père qui va partir en voyage. Donc il donne de l'argent à ses deux fils. Au premier fils, il donne 100 pièces. Et au deuxième, il lui donne 50 pièces. Donc le deuxième, il est quand même un peu déçu d'avoir moins d'argent. Et leur père, il leur dit, quand je vais revenir, je veux que vous me donniez 10% de plus que ce que je vous ai donné. Donc il part. Et le premier fils, il vend tout son argent, enfin il donne tout son argent pour acheter une petite boutique, enfin voilà, pour vendre des choses. Et le deuxième fils, il enterre son argent. Et quand le père revient, le premier fils, il peut tout lui rendre avec les 10% parce que son entreprise, elle a fructifié. Mais le deuxième Fitz, vu qu'il a enterré son argent, il avait peut-être pensé que ça avait poussé, je sais pas. Vu qu'il a enterré son argent, il peut que lui rendre le principal. Donc il ne rend pas les 10%. Et son père, il le gronde parce qu'il n'a pas tenu sa promesse et qu'il aurait dû les faire fructifier comme son frère.
Jean, merci. Alors, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Si vous allez lire l'histoire que Jean a racontée dans l'évangile, vous ne trouverez pas la même. Mais moi, je préfère celle de Jean. Parce que Jean, il l'a racontée en faisant sortir l'essentiel. Et c'est marrant, mais avec les histoires de l'évangile, on n'est pas obligé de les retenir par cœur. Il faut en retenir l'essentiel. Et donc, Jean, il a fait ça. Allez chercher dans le texte, hein. Vous tapez sur Google parabole des talents et vous lisez le texte. Vous verrez toutes les différences qu'il y a avec le texte, avec le récit de Jean. Mais Jean, il a bien lu ce qu'il y avait dans le texte. Et avec l'écriture, c'est comme ça. L'écriture, elle n'est pas faite pour être ressortie dans le même état, hein, comme les 50 pièces que le deuxième fils a ressorties dans le même état. L'écriture, elle est faite pour être ressortie dans un état meilleur. Et c'est ce que Jean a fait. Alors moi j'attire votre attention sur un détail du texte, c'est que quand le maître s'en va, le texte dit, il leur, quand vous lirez, vous lirez le texte et que vous lirez, c'est il leur remit tous ses biens. Mais la traduction exacte c'est pas ça. La traduction exacte c'est il leur livra tous ses biens. Or qu'est-ce que Dieu livre dans l'écriture? Son fils. Et donc, la parabole des talents, elle n'est pas en train de nous stimuler pour faire valoir des petits trucs dans notre vie, des petites qualités qu'on a, des petits dons qu'on a. Savoir jouer du piano, bien travailler à l'école, tout ça. Non, ça c'est pour rire. Hein. Elle fait plus que ça. Ce que Dieu livre, ce que Dieu nous livre comme talent, c'est rien de moins que son fils. Et la capacité à aimer, la capacité à pardonner, ça, c'est deux choses que Dieu nous donne de lui-même, qu'il nous livre de lui-même. Voilà. Donc, le maître s'en va et il leur livre tous ses biens, mais au sens où le vrai bien du maître, le vrai bien de Dieu, qu'il livre aux hommes, c'est son fils. Voilà. Je voulais juste rebondir sur le fait que Jean avait proposé de dire ce passage. Pour attirer encore une fois votre attention sur le fait que dans l'écriture, il y a des ressources qui sont importantes. Question finale. C'est quoi ma question finale? C'est, qu'est-ce que vous allez retenir de ce que j'ai dit? Ou bien, qu'est-ce que vous avez pensé à cause de ce que j'ai dit et que vous voulez bien dire? On n'a pas le droit de répéter une chose qui aura déjà été dite. Et j'interroge au hasard. Dans 2000.
J'ai fait aucune date.
Ah, moi j'ai complètement zappé. Hein.
Donc déjà tu dis.
Moi j'ai bien aimé.
Ça va, parce que
c'est assez. Oui, mais vous retenez.
Ce que vous répétez, c'est ce qu'il y a de l'importance pour tous. Donc, Marie-Charles. Là où est l'évêque, là où est l'église. Ton prénom déjà ? Juliette. Dieu a livré son fils. C'est le même terme que il leur livra son argent. Il a de la chance quand même qu'il le doit.
Hein. Jeanne, les témoins nous font croire.
Les témoins nous font croire.
Ah.
Marie. Avant, on baptisait adulte à Pâques et c'était l'évêque.
Être chrétien, c'est tout un itinéraire.
Être chrétien, c'est tout un itinéraire. Moi, il n'y a que les filles qui parlent parce que le foot a épuisé les garçons, peut-être.
Oui.
C'est pas le foot. C'est la nuit.
Jean-Marie. Nous, on vit une célébration de 15 ans. Le parrain est celui qui garantit notre chemin de foi. Le parrain est celui qui garantit notre chemin de foi. Martin. Le plus important, ce n'est pas le livre, c'est celui qui le donne. Il y a 4. Sujet. Ah oui, question au sens du sujet. Le témoignage du témoin. Il faudra choisir un parrain ou une marraine de confirmation et pas à la dernière minute. Comme parrain, pour terminer. Mais pourquoi?
Est-ce que c'est un vrai croyant? Sait-il prier? Connaît-il d'autres chrétiens? Mène-t-il une vie droite?
Oui, mais qui penses-tu choisir comme père?
Ma mère.
Mais est-ce que... Hein? C'est bien, mais c'est pas très bien. Ça c'est bien, mais c'est pas très bien.
Pour la voix, ils vont pas penser qu'elle a deux parents.
Ah oui, c'est sûr. Ah oui, exactement. Ah, c'est gentil, ça. Tu vas payer tes parents,
oui?
Bon, au revoir, tu vas aller. Bon, à bientôt, enfin, c'est bon, c'est pas fini, hein, on se démarre. Ouais, en bas. En bas, je suis en direct. Je prends des choses avant.
Non, on a tellement dormi.
En tout cas, merci d'avoir carré la messe. Nous, on a un bel effort, j'ai un bel conflit. Mais sans ton appui, un peu.
Il reste une petite fille là, qui s'appelle Juliette, il faut bien la ramener.
Ça c'est la voiture.
Ah, c'est la voiture. Bon, Michel. Bon, bah, moi je vais rentrer. Hein.
Ouais, on va se rentrer.
On
peut y aller.
On peut y aller. On peut y aller. On peut y aller. On peut y Non, c'était pas mon téléphone, mais on a passé un peu de temps ensemble, donc voilà.
Bon,
donc,
bien.
Bon, bah, on rencontrera peut-être.
Oui, peut-être.
Bonsoir. Au
Le placard demain 19h. Ils ont repoussé chez les chômages.
Demain
19h.
C'est bien.
Ça reprend le
travail. Oui, on va aller, non.
Et puis il y a les parents qui...
Il partait sur quoi?
Je sais pas, pour ses... propre Rome. Hein. Puis demain, il repart aussi très tôt.
C'est
pas trop dense,
vraiment. C'est dense, mais c'était... Non, c'était pas mal. C'est moi, j'arrive.
C'est pas
bien dormi, hein. Ben, il faut y aller voir un peu à tout.
Pourquoi?
Mais j'ai cette démangeaison, mais...
Non, c'est un fou, quoi. Il t'a rien... C'est que le soir, alors?
Essentiellement. Pas que le soir, mais... Soir et la nuit. Je n'ai pas pris beaucoup, tu as été à ça.
Non, mais est-ce que tu as dit tout de suite, il y a de l'air du soir, il y a des tisanes, ce qu'il t'avait donné, j'en sais rien.
Non,
ça fait encore de l'air. Ouais. Tu peux en prendre peut-être maintenant. Ça arrête le matin.
Ça arrête le matin, ben, j'arrête tout le temps, je ne pense pas.
Élection il n'a pas de politique en 61-62. Il ne se préoccupe pas du Sud. Pour une raison d'ailleurs bien simple, c'est que d'abord, il ne connaît pas le Sud du tout. Il était venu dans le Nord, il a voyagé en Europe, mais il ne connaît pas le Sud, comme beaucoup d'Américains du Nord. Il n'allait pas dans le Sud, c'était le domaine des rednecks du Sud, et c'était des qui se brouillaient avec les Noirs comme c'était leur rôle, si on peut. On ne regardait pas de très près. Donc il ne s'est pas intéressé véritablement. Bon, il avait fait un geste vis-à-vis de la femme de Martin Luther King, qui avait été emprisonné pendant la campagne électorale, mais c'était un geste uniquement polyélectoraliste, si on veut. Ça n'avait pas de conséquences. Donc à part quelques petites actions très très limitées, il n'a pas fait grand-chose. Ce n'est qu'à partir du printemps 63 qu'il prend profondément conscience de la réalité du problème. À la suite de l'assassinat des militants dans le Mississippi, entre autres, et à la suite des manifestations aussi de Martin Luther King dans le Sud, tout ça lui apparaît vraiment comme un problème qui découle du Sud, c'est un problème américain, et un problème de droit citoyen, disons. Et là, il en prend vraiment conscience. Et il fait un très bon discours en juin 63 à ce sujet-là. De la même façon qu'il acceptera, ce qui n'était pas le cas de l'ABL du conseiller, la marche sur Martin Luther King à Washington le 28 août. Donc c'est des choses où il a quand même montré une nouvelle détermination. Et c'est lui qui a effectivement lancé au Congrès la loi sur le droit civique. Mais il n'est pas dit que s'il avait vécu, il aurait pu la faire passer.
Ouais.
En raison de ces problèmes qu'il avait déjà. Et qui n'avait pas appuyé du tout sur Lyndon Johnson, qui est son vice-président, mais il ne s'en faisait pas du tout. Parce que lui avait la maîtrise du COVAX. Il savait très bien comment utiliser le Congrès. Mais lui, John Kerry n'a pas voulu prendre ces moyens-là. Et on ne sait pas du tout ce qu'il aurait fait. Mais ce n'est pas sûr qu'il aurait pu faire voter ses lois. Mais c'est lui qui l'a lancé inconditionnellement. Il a lancé la loi sur le droit civil, il a lancé la lutte contre la pauvreté.
Oui.
Mais ça sera mis en musique l'année suivante par son successeur, à la fois parce qu'il est habile, son successeur, et à la fois aussi parce qu'il profite du choc provoqué par l'assassinat.
Alors, cet homme, John Kennedy, d'abord, vous venez de le dire, c'est l'aboutissement de l'ambition de toute une famille. Les Kennedy qui sont arrivés extrêmement modestes aux États-Unis, immigrés, probablement de la faim, je suppose.
Bon, ben, ils sont arrivés comme la plupart des Irlandais qui sont aux États-Unis au moment de la grande famine d'Irlande. Ce n'était pas les plus pauvres, ils avaient quand même très tôt arrivé à avoir un petit artisanat, si on veut. Ils n'étaient pas des paysans directement, ils étaient quand même dans cette vague-là, il n'y a aucun doute. Ils ont mis deux générations à s'en sortir.
Mais, en même temps, celui qui a lancé peut-être l'introduction dans la vie politique de ces Kennedy, c'est cet arrière-grand-père qui était cabaretier et qui était chef du Parti démocrate de Boston-Est.
C'est vrai que
comme ça par-dessus. Ouais. Ça fait trop pantalon.
Comme ça.
Thank you.
préparé pour demain?
J'étais épuisée. Alors, qu'est-ce que j'ai pas préparé? Je me suis occupée des hortensias, tant pis. J'ai acheté un bon internet. Quoi?
Quoi?
Bah, je me suis dit que j'avais 8 diodes de savoie au chou.
Oui.
Je pourrais mettre à l'eau. Et puis un modernat. Quoi?
8 croix de savoie?
Diote. Dio. C'est l'espèce de saucisse au chou. Ouais. Avec. Autrement, j'irais acheter du boudin blanc pour grainer, je sais pas. Non?
Mais non, mais il faut penser tout au repas parce que sinon.
Ouais, je fais pas d'entrée, je fais ça avec du butternut. J'ai un camembert, ouais. Sauf si lui mange. Et puis comme dessert, j'ai rien prévu comme dessert. Mais j'ai un peu de tarte. Bon, je l'ai. Ah?
On n'a plus de tarte?
J'ai de la tarte aux pommes.
Voilà. Ça
t'arrête,
hein?
C'est curieux parce que ça avait. Ça s'était arrêté un moment.
Oui, complètement.
Pendant des mois, non?
Oui.
Mais il y a du stress ou il y a quoi? Tu fais trop de choses?
Non, je vois vraiment du stress. Je pense pas. Je vois vraiment stressé. Voilà, je pense pas.
Ou alors c'est quand c'est très chauffé?
Voilà,
quoi?
J'en ai rien à voir. Parce que, non, je pense que c'est pas. C'est pas. Au bureau, c'est pas très chauffé.
Et au bureau, ça gratte?
Non, mais ça me gratte. Si, c'est pas très chauffé.
Non, j'ai plus l'impression, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait être aussi comme un zonome.
Mais il t'avait dit que c'était pas possible. Pourquoi?
Je sais plus.
Tu te souviens pas?
Si, peut-être, mais non, je me souviens plus trop, il m'avait dit ça, mais il m'avait rassuré, mais pour lui, ça pouvait venir que de l'énergie, mais je sais pas. Et je ne sais pas si c'est ce que c'est que l'eczéma, mais ça pourrait être.
Bah, l'eczéma, tu as des plaques. Oui. Là, tu as des plaques?
C'est plus général que des plaques. C'est des petits boutons, comme des petits boutons.
Et montre, t'es pas bleu, là, au slip? Derrière, ça te gratte beaucoup derrière le dos? Non. Aux hanches, ça te gratte?
Non.
Oui? Non. T'es rouge là, regarde.
Thank you.
Est-ce que je peux amener un paquet de dents? Comme j'ai rien, autrement on va pas amener une bouteille, non? Avec ce manteau là, ça va?
Oui, c'est bien. Mais pas forcément dans mon équipe. Je connais pas les noms, par cœur, on en a. J'en connais quelques-uns, mais le FF, ça va pas marquer. Ah oui, c'est ça les dents.
Quoi?
Oui, c'est pas très, c'est difficilement offrable quand même.
Je trouve que c'est un peu meilleur.
Ça fait un peu supermarché, quoi, mais enfin bon.
Moi, j'ai des papillotes. Hein. Mais
bon. Ah, c'est une papillote pour faire une couronne.
Oui.
Moyen.
Ouais. Ça c'est peut-être meilleur quand même. Hein.
On peut passer une fleur au passage. Hein. Quand je dis une fleur, c'est ce qu'on veut.
Mijasa, pas fleuri.
Pourquoi c'est allumé ce truc?
J'aurais dû acheter un.
Pourquoi c'est allumé?
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est allumé.